Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invitée aujourd'hui sera Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde diplomatique. Alors, des sous et des hommes, cinquième année. Je dis d'habitude que des sous et des hommes est une émission d'éco-pédago. Mais ce n'est plus tellement vrai, ou plus seulement. Car à force de s'intéresser à l'économie, on tombe forcément sur la politique, ou la sociologie. Des sous et des hommes donc, parfois émission politique, parce que la vraie question essentielle devient de plus en plus la question de la démocratie. C'est d'ailleurs pour cela qu'Anne-Cécile Robert est notre invitée aujourd'hui, parce que je l'avais entendu parler lors d'une conférence de démocratie postmoderne. Démocratie postmoderne, diable. Alors je l'ai rencontrée lors de l'université d'été d'Attaque à Poitiers. On était assises toutes les deux sur un banc au soleil et on a discuté. Par deux fois au moins, le peuple, et en particulier le peuple de gauche, s'est fait traiter de mal votant et de mal comprenant, et notamment par des hommes dits de gauche. Il y a quelque chose qui m'étonne parce qu'il ne me semble pas qu'un type comme Jaurès, par exemple, aurait même osé penser 30 secondes ce genre de choses du peuple. Dans la mesure notamment où la démocratie est censée s'appuyer sur la souveraineté populaire, donc sur le vote souverain du peuple, qu'on n'a pas le droit d'envoyer dans les buts en disant « vous avez mal voté ». Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle conception de la démocratie apparemment ou...
Il y a toute une série de gens, que ce soit des penseurs, des intellectuels, des responsables politiques, qui aujourd'hui estiment que la démocratie c'est quelque chose de dépassé, que ça pose plus de problèmes que ça ne résout de questions. Alors on pourrait dire, alors après tout, pourquoi pas intellectuellement discuter de tout et de rien, mais on voit bien que les gens qui tiennent ce discours-là sont aussi des gens qui sont liés à des intérêts économiques ou qui tirent la conclusion de ce soi-disant dépassement de la démocratie que le pouvoir doit être confié au marché, à des grandes entreprises, à des lobbies, à des techniciens, voire des technocrates, qui, eux, seraient mieux placés que nous pour savoir ce qui est bon pour le peuple. Donc une apparente critique intellectuelle, comme ça, est en fait une charge politique, idéologique, contre un principe d'égalité entre les citoyens et un principe d'organisation de la société qui est de dire que le pouvoir qui s'applique au peuple, doit être responsable devant lui. C'est ça la démocratie. Hein. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ça paraît logique, parce qu'il n'y a qu'une collectivité qui peut déterminer ce qui est son bien commun. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on pourrait appeler un mouvement complètement réactionnaire, aristocratique, de gens qui veulent revenir sur les acquis de la démocratie qu'on a depuis 200 ans. Oui, quelque chose de régressif, de volonté de retour en arrière, et qui distille un mépris du peuple, un mépris des classes populaires en général, qui effectivement empêche les riches de tourner en rond, si on peut être un peu lapidaire comme ça. Et ce qui est embêtant, c'est que des gens, vous citiez Jaurès à l'instant, des gens qui sont censés incarner le progrès social, la démocratie, des gens de gauche pour faire court, s'engouffrent dans ce discours-là. Et donc ceux qui devraient être les porte-parole de la démocratie, ceux qui demandent l'approfondissement de la démocratie, eh bien ils en viennent eux aussi à tenir ce discours de mépris du peuple. Alors ça prend des formes très différentes, parfois soft. Souvenez-vous, 21 avril 2002, lorsqu'il y a eu effectivement ce drame, puisqu'on a eu l'extrême droite au deuxième tour, vous avez quand même eu un certain discours, salauds de pauvres, qui votent mal, qui n'ont pas reconnu leurs vrais représentants, bon, ça dépendamment de savoir ce qu'on pense de ce pauvre Jospin, mais bon, après tout, c'est lui qui n'a pas réussi à convaincre les électeurs de voter pour lui. Là, on a eu une sorte d'inversion de démarche. Tout d'un coup, les électeurs ont mal voté, n'ont pas su reconnaître leurs représentants. Alors qu'en fait, on peut très bien penser que c'était tout bêtement une insatisfaction politique qui les a fait voter comme ils ont voté. Mais on a eu tout un discours de mépris des gens qui comprennent rien, donc un refus d'écouter en fait.
Et en quoi, tout à l'heure vous avez dit que certains considéraient que la démocratie était dépassée, mais dépassée en quoi ? Sur quels symptômes ils s'appuient pour dire que la démocratie est dépassée ?
C'est une excellente question, parce que c'est un discours qui est assez préfabriqué. C'est-à-dire que, par exemple, ils nous disent, aujourd'hui, dans le monde mondialisé, les choses sont trop complexes pour que les citoyens puissent s'y retrouver. Mais n'importe quel historien vous dira que le monde a toujours été complexe. Bon, mais on est parti du principe, parce qu'on était des humanistes, des progressistes, qu'il y avait une certaine idée de la civilisation, que justement le but du jeu, c'était de créer un espace de dialogue où les citoyens, les experts, enfin toute la communauté politique débat de son avenir et des grandes orientations. La complexité, c'est une espèce d'argument qu'on nous envoie à la figure, un argument un peu terroriste comme ça, pour nous empêcher d'exercer notre pouvoir de citoyen, alors qu'en fait, on le voit bien là, à l'université d'été d'attaque, que quand on prend le temps d'expliquer une question, rien ne résiste à l'explication. Des choses qui apparaissent très complexes, un bon pédagogue, plusieurs pédagogues, peuvent très bien la démonter, l'éclairer, pour que les gens s'y retrouvent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expériences, de conférences de citoyens, par exemple, des associations qui travaillent là-dessus, sur comment, justement, décortiquer les grandes questions, créer une sorte d'expertise citoyenne, comme on dit aujourd'hui. Ce discours sur la complexité, c'est un discours complètement politique, parce complètement et même idéologique au mauvais sens du terme, parce qu'on s'aperçoit que c'est toujours compliqué pour les mêmes. La complexité, c'est toujours pour le peuple. Mais c'est jamais complexe pour les grandes entreprises, pour les grands partis politiques qui, évidemment, comprennent tout à tout, bien sûr. Quand on voit comment se passe la vie politique ou les débats parlementaires, on voit bien que c'est la difficulté est partagée. Non, c'est un refus de faire fonctionner la démocratie et c'est une volonté de capter le pouvoir par une partie des gens.
Des sous et des hommes en compagnie d'Anne-Cécile Robert, toujours sur notre banc, une vraie conversation de femmes, suite. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre, à l'intérieur de la démocratie française, cette façon de récuser la capacité de bien voter, enfin de s'intéresser à la chose politique réellement du peuple, et cette extension du niveau de la décision, soit au niveau européen, soit au niveau mondial? Dit autrement, est-ce qu'il y a un lien entre cette façon de nous renvoyer dans les buts et la volonté apparente de vouloir instituer une sorte de gouvernement, c'est pas vraiment un gouvernement mondial, mais en tous les cas, ils disent une gouvernance mondiale, ce qui... Il y a plutôt cette notion de gouvernance qui commence à être...
C'est vrai qu'on voit depuis quelques années que des choses qui n'étaient pas possibles dans le cadre national, par exemple des atteintes aux droits sociaux, on a utilisé, par exemple, la construction européenne pour les faire passer. C'est-à-dire comme dans les États nationaux, vous aviez des syndicats, des forces politiques qui étaient structurées et qui combattaient, il y avait un certain nombre de droits politiques et sociaux qui étaient défendus et qu'on maintenait. Depuis quelques années, 25-30 ans, le détour par l'international, le fait de passer au niveau notamment européen, c'est une façon de faire avaler aux sociétés des réformes qu'elles ne veulent pas et qui sont en général des réformes très, très régressives. Parce qu'effectivement, au niveau européen comme au niveau international, vous n'avez pas de démocratie constituée. Donc vous retrouvez des gens qui sont entre eux, qui sont souvent sous la pression des lobbies d'ailleurs, des grands lobbies économiques, qui prennent des décisions qu'on n'accepterait pas au niveau national. Et il y a une phrase d'ailleurs d'Alain Touraine, le sociologue, qui est assez étonnante. Il a dit pendant très longtemps le mot libéralisme n'était pas acceptable, on en a trouvé un autre, le mot Europe. Et on voit bien effectivement qu'on a réussi à faire valider une idéologie qui était globalement rejetée, simplement par le détour par l'international. Et c'est pour ça que la mondialisation, on nous dit, c'est un phénomène inéluctable, on nous présente presque comme quelque chose de naturel, c'est en grande partie quelque chose qui est construit pour ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont pris des décisions pour que la mondialisation s'installe et que justement on puisse... prendre des décisions économiques dans un sens où on serait loin des citoyens et où on serait hors de tout contrôle. Alors c'est pas du tout la théorie du complot, mais c'est le fonctionnement, je pense, des choses, parce qu'effectivement on a raison d'internationaliser certaines questions. Ça, je pense que C'est important, certaines questions qu'on ne peut pas traiter nationalement. D'ailleurs, pendant très longtemps, le mouvement ouvrier était internationaliste, d'ailleurs, c'est très bien. Mais on voit bien que cet échelon international, aujourd'hui, il est investi politiquement par des forces qui voient tout le parti qu'elles peuvent en tirer, parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est qu'une démocratie européenne ou une démocratie internationale. Historiquement, ça s'est construit dans le cadre national. Bon, ça fonctionne d'ailleurs pas toujours très bien, mais enfin, ça ressemble à quelque chose. Et aujourd'hui, on nous dit c'est dépassé, il faut construire une démocratie européenne ou internationale. Mais comme personne ne sait ce que c'est, on ne voit jamais rien venir. C'est-à-dire qu'on déconstruit par les deux bouts. On déconstruit la démocratie nationale et on ne reconstruit rien au niveau européen et international. Et ce mot de gouvernance, c'est devenu une façon de nous faire croire qu'on reconstitue un gouvernement politique démocratique au niveau européen ou international, alors que ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, la gouvernance, c'est un mot qui vient de la science administrative anglo-saxonne, et à l'origine, c'est juste la question de la comptabilité des entreprises et des administrations. Ça n'a rien à voir avec l'idée de gouverner une société, avec une politique, je sais pas moi, culturelle, sociale, etc. Et de plus en plus, on substitue le mot gouvernance au mot gouvernement pour en fait faire disparaître l'idée du gouvernement démocratique qui débat, qui prend des orientations sous le contrôle des citoyens, au profit de quelque chose de technocratique, de moins transparent, qui fonctionne sous la pression des lobbies. Et c'est tout un changement qui se fait par le détour, par l'international et par l'européen. Mais il faut que les citoyens peut-être se rendent compte que s'il y a besoin d'internationaliser certaines questions, on n'est pas forcé de les internationaliser telles que on le fait aujourd'hui. Là, c'est une internationalisation non démocratique. Mais on peut très bien travailler sur des formes de démocratie transnationale. C'est ce qu'on fait à TAC, mais beaucoup d'associations le font. Comment recréer des espaces de démocratie dans les États nationaux déjà, et puis dans les espaces intermédiaires au niveau européen ou international.
Il y a certains qui pourraient vous dire, mais si c'est bien cette histoire de gouvernance, puisque ça permet l'émergence d'une société civile.
Mais la gouvernance, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Les mots sont chargés. Gouvernance ne fait pas partie du vocabulaire démocratique. Ça fait partie, c'est un vocabulaire administratif et technique, et on ne peut pas lui donner une portée politique spontanée. D'ailleurs, les gens qui défendent la gouvernance, en général, ce n'est pas des gens que la démocratie préoccupe. C'est des financiers, c'est des comptables. Vous voyez, moi, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et quand vous voyez le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou la Commission européenne qui débarquent en parlant de gouvernance, c'est des histoires de gros sous. Ils regardent dans les caisses de l'État ce qui sort, ce qui rentre. Bon, mais on n'est pas du tout dans comment résoudre la pauvreté, quel serait le projet politique qui permettrait, je ne sais pas moi, au Mali ou au Burkina Faso de se développer. Parce qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc au contraire, la gouvernance qui est censée résoudre des problèmes politiques ou des problèmes financiers, les accroît en fait, les entérine, les fossilise. Et ce qu'il faut que les citoyens, ce qu'on devrait faire nous en tant que citoyens, c'est essayer de changer de point de vue et revenir à cette question de qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement démocratique, qu'est-ce que c'est que des choix de société, l'intérêt général, quelles sont les politiques qu'on voudrait mettre en priorité, le social, la culture, toutes choses qu'une vision comptable telle que celle de la gouvernance ne permet pas de réaliser.
Donc c'était La Rue qui est à nous et nous sommes en compagnie de Anne-Cécile Robert du Monde Diplomatique sur Aligre FM 93.1.
Il y a un petit truc que je comprends pas bien, cette façon de récuser la démocratie finalement, elle a un ancrage idéologique qui vient du passé, c'est la suite logique de quelque chose ou c'est né là comme ça brutalement?
En fait, la démocratie, elle a attaqué sur plusieurs flancs. C'est-à-dire qu'on a, jusqu'à présent, il y avait une critique classique de la démocratie qui venait des courants politiques qui n'ont jamais accepté par exemple la Révolution française ou les Lumières, bon, c'est le cas de toutes les branches de l'extrême droite qui ont toujours rejeté ce message démocratique qui ressort, hein. Souvenez-vous par exemple en 1986 lorsque Jean-Marie Le Pen avait, lorsque le président de la République François Mitterrand avait consulté les partis politiques que faire contre les attentats, il y avait beaucoup d'attentats, et Le Pen avait dit la démocratie n'est pas adaptée à ce genre de situation. Donc ça ressort, et la critique du parlementarisme, par exemple, de l'extrême droite, c'est une façon de rejeter les instances de la démocratie. Donc ça, c'est une critique traditionnelle qu'on peut appeler anti-moderne, hein, parce que les historiens et les philosophes estiment qu'il y a une grande période historique qui commence à la Renaissance, qu'on appelle la modernité, qui est la période où est née la démocratie, avec la citoyenneté, le droit de vote, les droits de l'homme, etc. Et l'extrême droite se situe historiquement dans un courant anti-moderne qui souhaiterait retourner, et même des branches aristocratiques qui veulent rétablir la monarchie, pourquoi pas. Donc la démocratie est toujours attaquée par ces gens-là, mais elle est attaquée par un nouveau courant qui lui se dit post-moderne, c'est-à-dire qu'ils disent, bon, il y a eu la modernité à une époque, avec la démocratie, les droits de l'homme. Maintenant, tout ça s'est dépassé, il faut passer à un autre système qui serait donc post-moderne et dans lequel on déconstruit tout ce qui a été la démocratie. Donc on nous explique, par exemple, qu'on peut pas faire voter les citoyens sur tout parce que c'est trop complexe. On nous explique qu'il faut que les experts aient plus de place parce qu'ils savent des choses que les autres savent pas et que donc ils doivent décider à notre place. Mais la question de savoir si l'expert pense juste, parce qu'après tout un expert a ses opinions politiques, c'est évidemment une question qu'on ne pose pas. D'ailleurs, en général, les pouvoirs choisissent l'expert qui va leur donner la réponse qu'ils attendent. Donc, il y a cette critique qu'on appelle postmoderniste, ou postmoderne, qu'on peut retrouver chez des gens très différents à des degrés divers. Vous avez, par exemple, le sociologue Alain Touraine, qui est un homme de gauche. Par exemple, il a fait toute une critique intellectuelle de la notion de sujet, en disant aujourd'hui, la politique a disparu, les gens, ce qu'ils veulent, c'est la proximité, c'est l'identité. Effectivement, personne n'est contre la proximité et l'identité. Le problème, c'est que si on fait de la proximité et de l'identité pour détruire l'intérêt général, l'espace politique, la démocratie où chacun est à égalité, là, on n'est pas d'accord. Vous avez d'autres gens, je pense comme Joël Roman, qui est un philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « La démocratie des individus ». C'est un livre intéressant, mais on voit bien que apparaît ce personnage de l'individu, qui n'est plus un sujet politique, qui ne veut plus être citoyen, qui s'occupe de sa sphère privée. Et donc, au milieu de tout ça, comment faire une démocratie si chacun est enfermé sur ses particularismes, sa logique d'identité? Vous avez aussi quelqu'un comme Tony Negri, l'Italien, qui lui dit « l'État-nation, c'est fini. C'est d'abord, l'État-nation, c'est un instrument d'oppression. Il parle des guerres, de la colonisation. » Alors, il y a effectivement une critique, et il a raison. C'est vrai que l'État-nation, ça a été, un moment dans l'histoire aussi, un instrument de pouvoir qui a opprimé, par exemple, les ouvriers. Mais ça n'a pas été que ça. C'est ça qu'il oublie de dire, que l'État-nation, ça a été aussi l'espace où s'est créée la démocratie, où on a élaboré des droits sociaux, où on a inventé les droits de l'homme. Donc, on jette un petit peu le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'au nom d'une critique de l'État-nation, effectivement, qu'on peut faire sur le plan historique, on va détruire en même temps la démocratie. Donc, on a tout un courant comme ça, post-moderniste, qui, en fait, aboutit à détruire les fondements politiques de la démocratie au profit d'une vision aristocratique du monde. Vous avez des gens qui... par nature, que ce soit des experts ou des chefs d'entreprise ou certaines catégories de responsables politiques, sont par nature aptes à nous dire ce qui est bon pour nous. Et on n'a pas le droit de les critiquer, d'où le décalage qu'on a aujourd'hui d'ailleurs dans les élections. C'est-à-dire par exemple pour le traité constitutionnel européen, 90% des parlementaires votent le traité, vous avez 55% de Français qui votent non. On voit bien le décalage et on peut quand même penser que les Français qui ont voté non savaient très bien pourquoi ils votaient non. Il y avait de bonnes raisons de voter non.
Est-ce que la démocratie participative participe justement de cette déconstruction de la démocratie ou au contraire, est-ce qu'elle lui donne une nouvelle impulsion d'un certain côté?
Ah, c'est pareil. On a deux versants de la démocratie participative. Vous avez un versant progressiste et un versant régressif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent on fait de la démocratie participative pour en fait nous faire avaler le fait qu'on a perdu le pouvoir sur les échelons nationaux et qu'on l'aura jamais au niveau européen et international. Donc on dit faites de la participation dans votre quartier, faites de la démocratie de proximité, mais en fait la réalité du pouvoir économique, je sais pas moi sur la Banque Centrale Européenne, va vous échapper. Ça c'est la version régressive. Mais vous avez une version progressiste qui est de dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas se contenter d'avoir des élus, qu'on élit tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Et puis après, bon, on rentre chez nous et puis les élus font ce qu'ils veulent. C'est quand même un petit peu problématique. Et là, c'est progressiste parce qu'on veut que les citoyens se mêlent de la chose publique, pas seulement quand il y a les élections, mais concrètement, au quotidien presque, assister à des réunions de conseil municipal, participer à des conférences de citoyens. C'est-à-dire, vous savez, ces conférences, on réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'une politique publique, moi je sais pas, urbaine, dans les quartiers. Là, on voit bien que les gens participent à la réflexion et à la prise de décision. Donc il faut que les citoyens soient vigilants, quand on leur parle de démocratie participative, de voir si c'est vraiment un progrès, c'est-à-dire qu'on gagne du pouvoir en tant que citoyen dans la clarté et l'égalité de tous, ou si c'est un truc qu'on nous donne comme un placebo, ou pour nous faire avaler le fait qu'on a perdu en fait une réalité du pouvoir.
Au tout début de l'émission, je disais, mais Jaurès ne se serait jamais permis. Est-ce que de traiter ainsi le peuple, on peut dire, est-ce qu'on peut avoir l'espoir que nos hommes politiques de gauche redeviennent des Jaurès qui ont confiance dans le peuple, qui le poussent, qui le tirent, mais qui ont confiance, vous voyez, quelque chose de fort, quoi.
On sent, depuis le 29 mai, un mouvement profond dans la société qui est effectivement une demande de politique au sens noble, qui pour l'instant se heurte au fait que les représentants officiels de la gauche, même au-delà, ne sont plus représentatifs du mouvement social, ne sont plus représentatifs de la société, et que c'est une réalité à laquelle ils ne veulent pas faire face. Ils se sont autoproclamés représentants de la gauche, alors qu'en fait, ils font des choses qui ne conviennent plus, en tout cas c'est ce que montrent les élections, au peuple de gauche. Et ce qui est intéressant avec le référendum du 29 mai, c'est que on a vu massivement, parce que le nom est massivement de gauche, on a vu une demande, presque une sommation, du peuple de gauche, entre guillemets, pour avoir une réaction, un changement au niveau de ses représentants. Et on voit émerger, au travers du mouvement social, au travers des comités pour le non qui ne se sont pas dissous, qui continuent de travailler, on voit émerger des gens. Alors ça ne va pas forcément se transformer en parti politique tout de suite, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas on voit des personnalités émerger, on voit des groupes émerger. Et puis il y a toutes ces propositions originales autour de la présidentielle de 2007. Comment on pourrait présenter des candidatures collectives, comment on pourrait obliger finalement, bousculer le jeu politique. En tout cas, il faut quand même s'interroger sur le point de savoir si ce 29 mai, c'est pas véritablement une fracture, une rupture qu'on pourrait faire fructifier. Et savoir si finalement les gens qui ont voté oui et ceux qui ont voté non, si c'est pas quelque part une vraie source de recomposition. Est-ce que, en tout cas, les gens qui voudront se présenter aux élections devront se positionner par rapport à ça. Donc, quelque part, le peuple a récupéré la main. C'est à l'origine d'une redéfinition du débat politique. Ça, c'est très intéressant. Mais ça peut prendre du temps. Mais c'est intéressant que ça puisse se produire. Alors qu'il y a quelques années, c'était complètement bloqué. Là, on sent que ça se redéfinit lentement.
Et voilà, c'était Des Sous et des Hommes en compagnie de Anne-Cécile Robert, que vous pouvez retrouver dans Le Monde Diplomatique. Autrement, la semaine prochaine, nous recevrons Michel Husson, qui est chercheur à l'IRES, et il nous parlera du prétendu déclin français. Une belle chose en perspective. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Des Sous et des Hommes, les 115 premières, c'est-à-dire les 115 des 4 années précédentes et leur transcription, sur le site de Des Sous, www.dessousetdeshommes avec un tiret entre chaque mot.org. Voilà, à la semaine prochaine.